C'est la fin du week-end, on est dimanche, il est 20h et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en streaming. Et tout de suite, c'est Museum Side, en avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du conte de Lautréamont. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassili Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. Ce soir, on vous emmène parcourir la capitale et on commence par le musée d'art moderne de la ville de Paris. Depuis une semaine et demie, on peut y voir la première exposition dans une institution française de l'artiste plasticien franco-algérien Mohamed Bourouissa. Urban Riders est à voir jusqu'au 22 avril et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir en première partie Jessica Castex, chargée d'exposition dans l'équipe du musée et commissaire avec Odile Burlureau de l'événement. En deuxième partie, nous parlerons de l'œuvre de l'iconique César qui fait l'objet d'une rétrospective au Centre Pompidou jusqu'au 26 mars 2018 à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. Alors ringard César ou au contraire très en avance sur son temps ? Nous le verrons en débattant tout à l'heure. Alors j'ai toujours avec moi Marie-Hélène, salut.
Salut.
Charlotte, de quoi tu nous parles dans ta chronique aujourd'hui ?
Bonsoir, donc aujourd'hui je vous parle d'un célèbre cinéaste qui était aussi metteur en scène à l'opéra, il s'agit de Patrice Chéreau.
Louis-Julien, tu es derrière ta vitre et tu fais coucou de la main. Et tout de suite on commence par toi, Galadriel, ce mois-ci tu pars avec ton micro. Cette fois, à la rencontre de ces personnes qui font le musée. Et tu nous présentes aujourd'hui Anaïs. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ?
Exactement, bonsoir. Anaïs travaille au musée du Louvre pour la direction des relations extérieures et de la démocratisation culturelle. Et elle est chargée du projet Le Louvre chez vous, qui facilite l'accès au musée pour les personnes qui en sont le plus éloignées. En fait, pour ainsi dire, le musée vient à ces personnes en menant des actions hors les murs qui ont pour le moment principalement lieu dans le 93, au sein de bibliothèques, de centres sociaux, d'hôpitaux et même de prisons. Elle a par exemple mis en place ce qu'on appelle les cafés Louvre. Ce sont des discussions autour de thématiques animées par un médiateur où les habitants de ces villes, alors il y en a à Aulnay-sous-Bois, Sevran par exemple, sont invités à participer gratuitement. Et à l'issue de ces discussions, qui durent 1h, 1h30, elles sont invitées à emprunter une reproduction issue de l'artothèque du Louvre.
Et alors de quelle œuvre elle t'a parlé ?
Alors Anaïs m'a parlé d'une œuvre qu'on pourrait dire qui est un peu comme une de ses relations de travail finalement. C'est un tableau d'Antoine Coipel qui représente le philosophe grec Démocrite, réalisé en 1692 et qui est présenté au musée du Louvre dans le département des peintures françaises. Le philosophe sur ce tableau, il est représenté dans un cadrage assez serré, 2/3, en se tournant vers le spectateur. Il a des vêtements assez élégants qui contrastent avec le large sourire édenté qu'il nous dévoile et son doigt pointé vers le spectateur désigne le sujet de son hilarité, c'est la folie des hommes, et il nous prend directement à partie. Et je vous propose d'écouter Anaïs sous la forme de cette petite interview que j'ai menée pour vous, pour nous parler de cette œuvre. Et alors, quel est ton rapport professionnel avec cette œuvre, le Démocrite d'Antoine Coipel ?
Alors, c'est une œuvre en fait que j'utilise, disons, presque tous les jours sur les différents projets que je mène. On a mis en place pour les habitants une artothèque où ils peuvent emprunter des reproductions du musée du Louvre. Et pour cela, on a proposé de leur faire choisir des œuvres. Donc on a fait une présélection, puisqu'il y a 35 000 œuvres au musée du Louvre. Et dans cette présélection, on a mis différentes œuvres qui nous paraissaient pour nous plus ou moins importantes et très intéressantes. C'est qu'on s'est rendu compte que le public avait des attentes et des avis complètement différents de nous, qui avons eu une formation d'histoire de l'art et qui parfois nous retrouvons un petit peu bloqués, on va dire, sur certaines œuvres. Il y avait notamment ce Démocrite de Coipel, dont on ne pensait pas forcément qu'il serait choisi et qui en fait a complètement fait l'unanimité parmi les habitants.
Pourquoi est-ce que tu penses qu'il plaît tellement aux habitants ?
Je pense qu'il plaît beaucoup parce que il pose question. Ouais, il a ses habits très élégants, ce sourire qui va pas du tout avec, et puis surtout déjà le fait qu'il soit en train de sourire alors que dans la plupart des peintures c'est pas du tout le cas.
Oui, surtout à cette époque, quand on a un sourire édenté comme ça, hein, c'est plutôt pour des bouffons, pour des paysans, etc. Donc, certainement pas un philosophe.
Ouais, il pose beaucoup de questions. Et puis, ce qui est très pratique, c'est que nous, en fait, quand on est hors des murs du palais, on travaille beaucoup sur l'interaction avec le public à partir de ses reproductions. On pose des questions, on travaille beaucoup sur l'émotion. Et à partir de ce tableau, en fait, ben, ça marche tout à fait parce qu'on s'imagine la vie de ce personnage. On se demande pourquoi est-ce qu'il est en train de rire, pourquoi est-ce qu'il est en train de sourire.
Et alors, est-ce que ça a changé ton rapport avec cette œuvre ?
Ouais. En fait, complètement. C'est pas une œuvre que j'appréciais forcément avant de commencer à travailler avec. Et maintenant, quand je la regarde, je pense juste à toutes les phrases qu'on m'a dit dessus ou les fous rires qu'on a pu avoir avec les différents publics, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes.
Génial. Merci beaucoup.
Merci.
Donc, un beau principe, amener les œuvres du Louvre partout en France. Merci Galadriel.
Je t'en prie.
Les spectateurs français ont découvert les œuvres de Mohamed Bourouissa dans l'exposition Dynastie en 2010, organisée conjointement par le Musée d'Art Moderne de la ville de Paris et le Palais de Tokyo. Le but de la manifestation, faire découvrir la création émergente, donner un petit coup de pouce aux jeunes artistes qui débutaient sur la scène artistique contemporaine. Alors pour Mohamed Bourouissa, jeune plasticien franco-algérien né à Blida en 1978, cela lui a permis d'ouvrir sa production de photographie à un public plus large, au-delà des aficionados traditionnels. Et il ne fait pas que de la photo d'ailleurs. Cette année, depuis le 25 janvier, au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, il revient pour sa première exposition personnelle dans une institution française, présenter son travail autour d'un quartier au nord de Philadelphie. Le noyau de Urban Riders est le film Horse Day, qu'il a filmé pendant sa résidence de 8 mois dans les écuries de Fletcher Street. Jessica Castex, vous êtes la commissaire, avec Odile Burlureau, de l'exposition de Mohamed Bourouissa. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que c'est cet endroit Fletcher Street et comment fonctionnent ces écuries qui sont associatives ?
Les écuries de Fletcher Street comptent parmi les plus anciennes de Philadelphie. Elles ont été fondées par des cavaliers afro-américains, je crois au début du XXe siècle. Et elles sont aujourd'hui donc importantes parce que elles invitent aussi des jeunes gens du quartier, qui est un quartier compliqué, pauvre également. Enfin, on n'insiste pas non plus que ça sur cette part, mais c'est aussi une réalité à laquelle a dû se confronter Mohamed Bourouissa quand il y est allé. Et donc elle fédère donc ces jeunes gens qui, se chargeant du soin des chevaux, s'occupant d'eux de manière aussi assez intime, trouvent un peu aussi un sens à leur vie, à leur propre vie, et se réparent également à travers cette relation à l'animal. Et il y a aussi un autre aspect qui de réparation, puisque les chevaux eux-mêmes, pour certains, ont été sauvés de l'abattoir.
D'accord.
Donc c'est un beau lieu.
Et donc en fait, lui, Mohamed Bourouissa, il a entendu parler de ce lieu par le biais d'un livre qui est sorti, donc le travail de Marta Camarillo, une journaliste, qui a sorti donc un livre sur ses écuries dans le New York Times. Toute une enquête un peu sur ses écuries, vous pouvez nous en parler un petit
elle
peu.
Elle a effectivement, Marta Camarillo est une photographe qui avait reçu une demande du New York Times de documenter ses écuries de Fletcher Street. Donc elle y est allée pendant, même elle y est restée plusieurs années, je crois. Et elle a donc établi un lien avec les cavaliers et elle a fait de très beaux portraits qui sont des portraits, je pense, un peu distanciés. C'est aussi ce qui intéressait Mohamed. Donc, il a découvert cet ouvrage, donc consacré à ce travail, et il a eu lui-même envie de rencontrer cette communauté de Fletcher Street à l'issue de cette découverte.
Et donc cette résidence de 8 mois, c'était dans quel cadre du coup qu'il s'est rendu dans ses écuries ?
Alors ce n'est pas véritablement une résidence.
Il appelle ça une résidence.
Alors oui, dans un premier temps, c'est vrai qu'on a dénommé une résidence, mais en vérité, ce n'est pas une résidence. C'est sa propre initiative d'aller à Philadelphie et d'y rester. Donc il y est resté en fait... plusieurs mois, mais en fractionné, en plusieurs séjours, en fait. Donc, il est allé la première fois, je crois, en 2013. Et puis, il est retourné l'année d'après. Et là, il est resté. Il a établi un lien avec cette communauté.
Et donc, rapidement, il a eu envie de faire un événement, le Horse Day, qui, en fait, qu'il voulait filmer. Et donc, l'événement a pris le pas sur le film.
Alors oui, effectivement, il a souhaité dans un premier temps faire un film parce que c'est aussi ce qu'il aime faire et ce qu'il sait très bien faire. Et il avait imaginé de faire un western contemporain urbain. Et en fait, quand il a rencontré les acteurs de cette communauté, il s'est vite rendu compte qu'il ne pourrait pas faire un film sur cette communauté et sur ce lieu, mais que ça faisait beaucoup plus sens de faire un projet avec eux, donc de les entraîner dans un projet commun. Donc, de cela, ce projet a pris forme avec le temps, c'est-à-dire que ça ne s'est pas imposé d'emblée, mais ça s'est imposé, je pense, au fil des échanges. L'idée donc, a été aussi d'apporter une forme d'imaginaire dans un quotidien compliqué. Et ce qui est un acte assez fort en fait d'apporter du rêve et de l'imaginaire dans un contexte dur.
Et apporter aussi une collaboration entre les artistes qui aident donc ces jeunes à se faire des selles dans l'esprit du western, des selles un peu des selles avec des CD qui brillent, des selles combatives.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire se rencontrer des mondes qui ne se rencontrent pas ou qui se rencontrent peu, à savoir des artistes plasticiens ou des artistes du monde du spectacle vivant et ces cavaliers afro-américains de Fletcher Street. Et donc ainsi, ce qui n'a pas été toujours simple d'ailleurs d'organiser ces rencontres, ça a pris beaucoup de temps, mais... ça a effectivement abouti à un projet commun de collaboration. Donc, il a proposé cette idée du Horse Day qui est sur le principe finalement du tuning. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est une façon d'éveiller l'intérêt aussi de la communauté de Fletcher sur des repères en fait qu'ils connaissent bien parce que c'est très ancré aussi dans la culture américaine cette question du tuning. Et de le déplacer dans le monde du cheval et de l'équitation, ça avait aussi quelque chose d'assez drôle. Et tout le monde s'est un peu pris au jeu, finalement, que ce soit les artistes et les cavaliers. Donc, ils ont travaillé ensemble dans ce projet.
Donc, comme les voitures qu'on décore donc dans cette pratique du tuning, donc c'est en fait une décoration de grosses voitures, on fait ronfler les moteurs, on met des néons sous la carrosserie. Là, du coup, c'est une parade de chevaux où ils ont tous une grande traîne. C'est un peu fait de briques et de broc, mais c'est assez touchant, en fait. Et donc, ils paradent autour avec les chevaux autour du stade.
C'est ça. Donc, il y a une journée. Alors, on voit dans le film, d'ailleurs, à la fois la préparation de cet événement et puis cet événement lui-même. En effet, les cavaliers ont été parfois même associés, d'ailleurs même souvent associés pour penser le costume de leur monture. Et les artistes ont fabriqué ces costumes à partir d'objets du quotidien, de rebuts parfois, en effet. Mais ce qui n'apparaît pas totalement dans l'objet accompli, parce qu'on voit bien que ce sont de très beaux costumes scintillants. voilà, on a détourné complètement la fonction de l'objet pour sublimer ce moment et sublimer le cheval.
Et du coup, Mohamed Bourouissa dit aussi que l'image du cow-boy, il n'a pas voulu parler de cow-boy, il a parlé de rider. Quelle est la différence entre un cow-boy et un rider et pourquoi ces deux termes ?
Alors, je pense que c'est parce qu'ils se définissent eux-mêmes, ces cavaliers, comme des riders. Ils ride, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Ils font des parcours dans la ville. Il y a un rapport au cheval qui est assez différent de celui qu'on peut avoir en Europe.
Oui, c'est pas du tout aristocratique. En fait, l'équitation, c'est très populaire.
Très.
Tout le monde peut avoir son cheval.
Alors, tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, c'est une pratique assez courante. Et on voit dans la ville ces cavaliers qui très régulièrement se promènent ou proposent des balades aussi à ceux qui le souhaitent pour quelques dollars, qui eux-mêmes font des promenades et puis vont se poser à un moment. D'ailleurs, il y a une très belle photo aussi dans l'exposition où on voit ce moment de repos. Donc, ça fait partie en effet des pratiques habituelles.
Et alors, donc, le film est au cœur de l'exposition, mais un peu plus loin quand on chemine dans l'exposition. Et donc, il est présenté sur deux écrans. Est-ce que c'est pour présenter d'un côté cette image fantasmée du western et de l'autre, en fait, la réalité de ces jeunes qui sont dans le stade? Ou pourquoi cette présentation du film ainsi?
Alors, c'est un souhait de Mohamed depuis le début. En fait, il a souvent montré ce film sous cette forme-là, sous la forme de deux écrans. Pour la première fois, il le montre en vidéoprojection et non pas sur écran, sur petit écran, enfin sur écran de moyen format. Donc il y a aussi ce rapport d'échelle qui est très important là, dans la manière dont on le montre, puisqu'on peut physiquement finalement entrer dans le film et être dans un rapport presque direct avec les personnages. Le choix de montrer deux images et de faire aussi coïncider ces deux images. On le voit, l'une pénètre dans l'autre à certains endroits, en fait, selon la position qu'on adopte, que le spectateur adopte. C'était une façon de faire dialoguer des images, puisqu'on voit sur un écran plutôt un focus sur les personnalités, que ce soit les cavaliers ou que ce soit leur dialogue avec les artistes, par exemple. Et sur l'autre écran, on voit beaucoup plus les scènes de la parade, de la préparation, etc. Donc en fait, c'est aussi créer ce dialogue, cette dynamique.
Et donc, tout autour, on a donc un peu le making-of du film, avec les stèles qui sont présentées. Le dessin prend une vraie place, puisqu'il a voulu présenter aussi bien les plans du stade et de la parade que des portraits aussi des cavaliers. Alors, comment le cheminement dans l'exposition se fait? Et pourquoi avoir voulu présenter le making-of?
Alors, je ne sais pas si pour Mohamed, on peut parler de making of s'agissant de tout ce qui entoure le film. C'est pour lui une manière de montrer la totalité d'un projet depuis son origine jusqu'à son aboutissement. Donc, l'idée de montrer, par exemple, les costumes était évidente, puisque c'était une collaboration très étroite avec les artistes et qui rend compte totalement du projet. Donc, il a souhaité aussi inclure cette production. La production graphique est très importante, en effet, dans ce projet. C'est une production qui a une pratique qu'il a toujours accompagnée depuis ses débuts. Il a toujours fait du dessin, mais il le montrait beaucoup moins. Aujourd'hui, en tout cas avec ce projet, cette façon de le mettre en avant s'affirme. Et s'affirme sous une forme scénographique bien spécifique qu'il a imaginée lui-même, qui donc cette forme de panneau. Qui rythme un peu l'espace et qui crée comme une sorte de cheminement, en effet, où progressivement on est amené à voir le film. les dessins donc ne datent pas tous du début du projet. Alors c'est vrai qu'il a commencé par le dessin cette fois-ci et non pas avec la photographie, parce que c'était une façon peut-être moins frontale d'aborder aussi la relation avec les cavaliers. Et ensuite, ces dessins, finalement, on voit qu'ils tiennent à la fois du croquis, du storyboard. Parfois, ils ont beaucoup plus une forme beaucoup plus conceptuelle ou plus plastique, à partir de collages, notamment de films, d'images de western, par exemple, comme La prisonnière du désert. Voilà, donc tout ça est montré. Pour en effet rendre compte d'un projet dans sa totalité.
Et alors pour parachever le parallèle entre tuning, voiture, cheval, western, il utilise un autre support qui est donc une carrosserie de voiture et il colle dessus des photos. Alors qu'est-ce qu'il aime avec ce support ? Comment il l'a conçu ? Donc c'est dans la salle derrière le film où on a donc, si je me trompe pas, quatre carrosseries présentées avec à la fois des photos, c'est très beau, à la fois des photos, à la fois des éléments de sel. Donc comment il a conçu ces quatre carrosseries ?
Alors les carrosseries ont été, c'est un projet qu'il mène depuis plusieurs années. On a vu à la Biennale de Lyon.
De Lyon, oui, ça m'a rappelé quelque chose.
Les prémices un peu de ce projet. Et en effet, son idée était de projeter comme ça sur des éléments de carrosserie, des photographies, de développer des photographies sur des éléments de carrosserie. Ensuite, on voit bien que c'est une réflexion qui se complexifie chaque fois et qui se développe. Cette fois-ci, on montre quasiment toutes les dernières productions. Donc on est dans un rapport beaucoup plus sculptural. En effet, il va chercher dans des casses. Des différents éléments de carrosserie qu'il monte ensuite, sur lesquels il vient développer, selon plusieurs procédés, des photographies qu'il avait lui-même effectuées à Philadelphie. Donc en fait, tout ça se nourrit parce que les carrosseries et ce principe de collage, finalement, nourrit aussi sa pratique graphique, parce qu'on retrouve aussi dans ses dessins ce même principe de collage, par exemple. Et on a quelque chose qui est presque cinématographique aussi, avec certaines de ces sculptures, comme l'une d'entre elles qui s'appelle The Ride, et qui est comme une sorte de grand travelling, parce qu'elle mesure 8 mètres de long, et donc c'est comme une sorte de grand travelling sur la ville, finalement, que l'on peut retrouver à travers toutes ces images.
Et puis, c'est s'intéresser aux carrosseries de voitures, ça fait partie aussi des thèmes qui lui sont chers, les populations en marge. Je sais qu'il avait fait un travail sur les banlieues, des espèces de grands tableaux avec des peintures historiques, en fait, des banlieues. Donc ça, on retrouve aussi des thèmes récurrents chez lui.
Oui, en effet, lui s'intéresse en effet à... Déjà à l'humain, je pense que c'est véritablement le cœur de son travail, l'humain, et à la société par ses marges, comme il dit, ou par ses contours.
Des gens qui n'ont pas toujours les projecteurs sur eux ou des projecteurs qui montrent toujours une vision un peu faussée de ces territoires.
C'est ça, une vision parfois uniquement par le prisme médiatique aussi. Donc c'est une façon de renverser un peu le regard. Et la série à laquelle vous faites allusion, je pense, c'est la série Périphérie.
Oui.
En effet, c'est une série photographique.
Ah d'accord, il me semblait...
C'est une série photographique, mais il s'inspirait effectivement de certains tableaux classiques, notamment de Piero della Francesca, notamment, effectivement, pour composer des scènes.
Merci Jessica Castex. L'exposition de Mohamed Bourouissa, Urban Riders, est à retrouver jusqu'au 22 avril au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris.
Merci à vous.
Et tout de suite, on écoute Silent World de Marquis de Sade.
Some silent night.
C'était Silent World de Marquis de Sade. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM et en streaming, et vous écoutez Museum Side, votre émission de critique d'exposition.
Je comprends pas ce que je vois.
César Baldacchini, dit César, est né à Marseille dans le quartier populaire de la Belle de Mai le 1er janvier 1921. Ses parents tiennent un bar et rapidement il aide son père et un voisin dans leur travail quotidien. Il dessine déjà et commence à bricoler avec des boîtes de conserve. De 1935 à 1939, il suit les cours de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Marseille avant de monter à Paris et d'intégrer les beaux-arts à partir de 1943. Alors, on connaît le sculpteur César aujourd'hui pour ses compressions de voitures et pour la petite statuette qu'il a créée pour la cérémonie des Césars, qui porte donc son nom. Mais tout au long de sa carrière, César ne va cesser d'osciller entre sculpture traditionnelle, alors je mets des gros guillemets quand même, mais une sculpture un peu plus traditionnelle qu'il produit avec de l'acier et du fil de fer, car la pierre était trop chère quand il était étudiant, et expérimentation avec des matériaux de la société de consommation, comme des voitures, du polyuréthane qu'il répand, des presses hydrauliques, etc. Les presses hydrauliques qui lui serviront donc pour les compressions. Et malheureusement pour lui, comme il se met en scène, il joue un personnage à un moment de sa carrière où il gagne très bien sa vie. La scène parisienne a du mal à le prendre au sérieux et le réduit à ses fameuses compressions. À tel point qu'en 1991, à la question d'Olivier Sénat, journaliste chez Télérama, qui lui dit « Qu'est-ce que ça vous fait d'être un artiste reconnu et très médiatique ?», César répondait « Connu de qui ? J'ai 70 ans et le plus grand musée de mon pays, Beaubourg, ne m'a jamais exposé. » Bernard Blisten, le directeur du Centre Pompidou, qui a bien connu César, lui rend donc justice à travers cette rétrospective extrêmement complète de son travail. Il a souhaité que l'exposition soit une grande salle sans mur, pour que le spectateur puisse embrasser d'un seul regard la totalité de la production du sculpteur, de toutes ses séries qu'il a toujours menées en parallèle les unes aux autres. Seules explications sur sa vie, des vidéos à l'entrée qui présentent plutôt ses techniques de fabrication. Alors, vos premières impressions sur l'expo, les filles, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Galadriel.
Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai bien aimé. Non, je plaisante. Ah. Je plaisante. Mais oui, j'ai bien aimé cette exposition, par contre. C'est vrai que j'ai très apprécié le fait qu'elle soit un peu comme ça, en open space, que toutes les parties se rencontrent. Et j'appréciais déjà l'œuvre de César avant l'exposition, mais ici en plus, avec la possibilité de voir à chaque fois plusieurs exemples de chacune de ces techniques, ce qui manque souvent finalement quand on le voit exposé dans des musées, dans des collections, on a souvent une compression, une expansion, voilà. Etc. Et je trouve que là, d'en voir plusieurs réunis enrichit énormément le propos et son travail.
Charlotte, Marie-Hélène ?
Charlotte. Alors, donc moi, je rejoins vraiment Galadriel sur le fait que d'un point de vue mise en scène, c'est très, très impressionnant à l'œil de voir toutes ces compressions, ces enveloppages, ces expansions, ces fers soudés qui se mêlent finalement les uns aux autres, même si chaque type d'œuvre appartient à un espace délimité. Donc d'un point de vue visuel, c'est vraiment très réussi. Par contre, contrairement à toi, Galadriel, j'étais un peu moins familière de l'œuvre de César. Et c'est vrai que pour se repérer à travers l'exposition, j'ai parfois eu un peu de mal à retrouver quelle œuvre appartenait à quelle période de sa vie. Donc de ce point de vue-là, peut-être qu'il aurait été bien d'avoir non pas les trois films au début de l'exposition, mais au fur et à mesure, peut-être pour introduire chacune des parties. Et là, effectivement, ça aurait pu être plus clair, même si, bien entendu, on s'y retrouve. Et c'est vraiment une exposition à voir.
C'est vrai que c'est un peu dommage que les trois vidéos sur les techniques assez spécifiques soient au tout début. C'est vrai que si elles avaient un peu coupé les sections, peut-être que ça aurait permis aussi de...
Oui, puis en plus, quand on débute l'exposition, on n'est pas forcément très attentif à ces techniques. Enfin, il faut y revenir une fois qu'on a vu les œuvres, si on connaît un peu moins. Comme ça, on associe tel petit film à tel type d'œuvre.
Oui, je comprends. C'est vrai que ça ne m'a pas dérangée, mais... Après, c'est vrai que ce qui est important, finalement, c'est que ce n'est pas tellement cloisonné. Alors, évidemment, il y a des moments de sa vie où il va plus utiliser une technique qu'une autre. Mais comme il y revient souvent, ça nous permet aussi, je pense, de faire des allers-retours visuels qui sont intéressants. Mais je comprends que ça peut être un peu dérangeant.
Marie-Hélène ?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, les filles, avec toutes les deux, toutes les trois, avec Florence. J'ajouterais juste que j'ai bien aimé aussi le fait que, du coup, on voit César dans forcément tous ses aspects artistiques et on comprend que ce n'est pas juste l'artiste des compressions et qu'il y a eu énormément de travail derrière. Et moi, voir toutes ces techniques, j'avais vraiment envie de toucher les œuvres. C'était ludique comme exposition, en fait. Je pense que ça peut plaire vraiment à un large public.
Est-ce que tu connaissais, par exemple, les autres productions en dehors de ces compressions ou...
Je connaissais les empreintes, du coup, et les expansions, mais tout ce qui est parti faire souder, j'avoue que j'ai découvert un peu en même temps que vous.
Moi aussi, hein, les enveloppages, les faire souder, etc., c'est des choses que je ne connaissais pas vraiment, en fait, avant non plus l'exposition. Donc,
Les enveloppages, c'est vraiment, je pense, c'est la grosse découverte de l'expo, hein, clairement. Oui. Bon, on va justement y revenir. Parce que du coup, donc, l'exposition, classiquement, comme on vient de le dire, sépare le travail donc, en série. Donc on a les fers soudés dont on vient de parler, les fameuses compressions, les empreintes humaines dont un pouce, le fameux pouce qui est donc, il y a même un gros pouce qui est actuellement sur le parvis du Centre Pompidou, les expansions, les enveloppages, les plâtres, bronze et fonte de fer, et les compressions des dernières années, dont la suite milanaise. Alors, on va essayer de suivre ces séries pour parler un peu de la technique et de l'esthétique, parce que la technique de César, ça vaut quand même son pesant d'or.
Les techniques.
Donc, Marie-Hélène, on va commencer par les fers soudés, parce que donc, le début, même s'il en fait, comme toutes ses autres séries, un peu tout au long de sa vie, les fers soudés, c'est vraiment par ces sculptures-là qu'il débute sa carrière.
Oui, tout à fait. Donc, on débute l'exposition avec cette grande espace consacré aux fers soudés qui est impressionnant d'ailleurs déjà, qui donne vraiment envie de déambuler à travers les œuvres et de découvrir toutes ces particularités. Donc, en fait, César, quand il s'est installé à Paris en 1946, il a découvert les assemblages de González, Giacometti, Picasso. Et c'était des sculptures qui l'inspiraient beaucoup, mais lui n'avait pas les ressources suffisantes pour s'attaquer à des classiques comme le marbre et le bronze. Donc, il s'est tourné vers la ferraille, où il pouvait trouver des petits matériaux faciles d'accès. Et donc, à travers ces matériaux de récupération, il a finalement lancé sa propre esthétique, et qui est très intéressante et qui a influencé tout le temps sa pratique. Donc, dans cette logique de récupération, en fait, César, c'est un peu devenu un chineur. Il allait voir les ferrailleurs, les chiffonniers, les marchés aux puces. Il a montré en fait l'intérêt des petites choses que les gens ne veulent plus et il les a transformées en véritables œuvres d'art. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le catalogue de l'exposition, ils font un parallèle avec l'exposition de Walker Evans qui avait eu lieu au Centre Pompidou donc l'année dernière, où il y avait aussi une série sur ce que la société de consommation produit en masse et finit par rejeter. Donc j'ai trouvé le point de comparaison très intéressant. Donc à travers ses premières recherches, il a utilisé du plâtre et du fer, mais c'est en 1949 qu'il découvre la technique de soudure à l'arc qui a été utilisée dans l'industrie. Et donc cette technique lui permet en fait de sculpter le métal avec une grande souplesse, de pouvoir lui donner un peu toutes les formes dont il a envie, ce qui produit toutes les variétés d'œuvres qu'on a pu voir. César plie, découpe, cisaille, et à travers différents déchets, souvent très petits comme des vis, des clous et des écrous, il donne vie en fait à une multitude d'œuvres comme le bestiaire fantastique qu'on retrouve donc à l'entrée. Vous vous souvenez du grand esturgeon qui est impressionnant.
Il avait eu un prix pour l'esturgeon et c'est par cette œuvre là
vraiment vraiment très impressionnant. Et aussi à côté, la chauve-souris qui est d'ailleurs assez effrayante de loin et de près. Moi au début j'ai cru que c'était une araignée personnellement, et ça donne.
Et il y a le scorpion entre les deux aussi. Et le scorpion,
le coq. C'est vraiment des œuvres impressionnantes. Et quand on se rapproche, on voit encore plus tous les petits détails qui sont faits avec ce matériel de récupération. Et on a bien sûr aussi de la figuration humaine avec le...
Ces grosses femmes, voilà. Ginette.
Oui, Ginette. Et voilà, cette présence du corps, du visage aussi.
Alors toi, du coup, Charlotte, ce qui t'a plu, c'est donc ce qu'on connaît le plus de César, c'est les fameuses compressions. Est-ce que tu peux revenir aussi sur la technique bien particulière de la compression ?
Alors, oui. Donc effectivement, moi, j'ai été plus sensible à ces compressions. Donc, bon public, hein. Voilà, on aime ce qui plaît.
Donc, tu aimes le Ricard parce qu'il y a une compression Ricard quand même.
ça, ça restera entre nous.
Je ne sais pas si là, du coup, ça reste entre nous, mais...
Eh bien... Vous n'en saurez pas davantage, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour les compressions, en fait, il y a plusieurs phases, plusieurs périodes où ça débute à la fin des années 1950, en 1958 pour être plus précise. Et en fait, César rapporte des paquets de métaux, donc essentiellement du cuivre ou de l'aluminium, qui sont compressés dans l'idée comme ça de les intégrer à une œuvre. Et finalement, petit à petit, il comprend la portée de la compression et se dit qu'elle peut être une œuvre en soi. Donc il y a un vrai tournant au début des années 1960 quand il découvre une presse géante qui vient des États-Unis. Donc il la découvre chez un ferrailleur de Gennevilliers. Et là, ça va devenir son outil. Donc il va, dès le salon de mai 1960, en fait, il présente des premières compressions de voitures. Et alors là, ça crie au scandale tout de suite parce qu'on se dit... voilà, des voitures écrasées, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est de l'art, etc. Et en fait... petit à petit, il peaufine ses compressions. En 1961, il se lance dans ce qu'il appelle ses compressions dirigées. Donc cette fois-ci, il choisit vraiment les éléments, la forme, la couleur. Il peut varier aussi le degré de compression, donc ce qui peut donner des œuvres d'aspects complètement différents. Et peu à peu, il utilise aussi d'autres matériaux comme des emballages métalliques, des plaques minéralogiques. Donc par exemple en 1968, donc finalement il ne se limite plus à l'automobile, il y a aussi, donc là il n'y en a pas dans l'exposition, mais il y a des mobilettes, d'autres véhicules. Donc ici, donc ce que vous allez voir, c'est essentiellement sa série de compressions d'automobile, donc en tôle. Et donc il y en a toute une série en forme cubique, donc qui date de ces années 1960, avec, alors moi il y a une œuvre qui m'a bien plu, parce que c'est la Yellow Buick, 1961, oui, que je trouve remarquable par le jaune vif de sa carrosserie, en fait, parce qu'on se retrouve face à des voitures compressées dans des teintes plutôt sombres. J'ai plus exactement en tête, mais il me semble que c'est assez noir, gris, un peu bronze.
Et après, il fait des combinaisons de couleurs, vraiment. Oui, la Yellow Buick s'appelle Yellow, ouais, parce que le jaune est prédominant dans ce carré.
Oui.
Dans ce cube.
Oui, plutôt. C'est ça, mais il y a aussi... Il me semble que c'est plutôt dans les teintes bleues, vertes.
La compression Ricard, hein. Il y a du bleu, il y a du jaune.
Oui, voilà, celle-ci aussi.
Ricard, parce qu'il y a le Ricard marqué dessus.
Exactement, voilà. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, chacune de ces compressions a sa petite histoire. Par exemple, on a la Zim.
Ça m'a bien fait rire, celle-là.
L'histoire, oui, est très amusante, car c'est une voiture que se fait offrir la vicomtesse Marie-Laure de Noailles en 1961. Donc, une luxueuse berline soviétique. Et en fait, elle se la fait offrir dans l'idée d'en faire une compression, tout simplement. Donc elle l'installe même, dit-on, sur le sol de son hôtel particulier. Alors là, on crie au scandale, une superbe voiture qui se retrouve écrasée à même le sol. Voilà.
Oui, parce que c'était chic, en fait, d'avoir sa compression de, voilà, César. Même, il me semble que César, enfin, il me semble pas, je sais que César faisait aussi des bijoux, des petites compressions en bijoux, etc. Donc, il y a ce côté un peu démonstratif, un peu show-off qui...
Ah oui, ça devient à la mode. Donc, comme tu le rappelais tout à l'heure, la statuette des Césars, tout simplement. Donc là, c'est un peu plus tard, mais à partir d'objets métalliques aussi. Et c'est pour ça que finalement, chaque statuette est unique, parce que c'est une compression d'objets...
Et puis quand il pense, c'est quand même un peu scandaleux le fait aussi qu'il évacue tout geste du sculpteur. Il a cette grosse, oui, presse, il la laisse faire et donc la voiture, ça, est mise dedans, pouf, compressée, donc dans un des espèces de... comme la statuette des Césars, en fait, mais du coup un cube de voiture, et puis c'est... en fait... le geste de l'artiste est complètement évacué.
Exactement.
Oui et non, parce que justement, quand il fait ses compressions dirigées, on le sent qu'il y a une composition. Enfin, quand on voit les voitures en cube, là, hein, qui sont réduites donc, à forme de pavé, on voit les éléments qu'il a voulu laisser en avant. Les couleurs, les poignées de porte, les grilles, la plaque d'immatriculation, etc. Moi, je trouve, et surtout quand on voit plusieurs compressions ensemble, présenté ensemble, je trouve qu'on voit vraiment en fait une vraie composition voulue par l'artiste.
Mais c'est vrai qu'il y a des choix artistiques. Oui. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on peut peut-être retrouver cette dimension.
Oui, c'est vrai, il y a un souci. C'est vrai qu'il y a un souci d'expérimentation, de dosage. Oui, à partir du moment où il dose et il dirige. Mais après, est-ce que à l'époque, le public se rendait compte de ça, du travail derrière, dans les compressions un peu show-off?
Je pense que oui, d'autant qu'il n'était pas le seul à faire ça à l'époque. Oui. C'est pas évoqué dans l'exposition, c'est peut-être ça le côté un peu dommage.
Mais bon, j'ai pas trouvé que ça manquait particulièrement, mais on aurait pu évoquer les nouveaux réalistes. Par exemple, justement, au tout début des années 60, hein, quand il est dans ce groupe des nouveaux réalistes, mais en même temps, il y a Armand qui fait ses sculptures d'accumulation, où les colères aussi, hein, où il détruit les pianos, les violons. Il y a Klein qui fait des tableaux sans toucher la toile. Enfin, il fait partie de tout ce groupe d'artistes.
Mais il est quand même un peu à l'écart. Enfin, Restany le classe dans le critique qui a théorisé du coup les artistes des nouveaux réalistes, donc qui prennent les objets de la vie quotidienne, comme tu l'as expliqué, donc Armand, etc., qui cassent un peu les objets, etc. Donc tout ce groupe d'artistes est appelé nouveaux réalistes parce qu'ils utilisent la vie quotidienne. Mais César, il est un peu à l'écart. Et après, Restany l'intègre dans le mouvement, mais il est un peu en périphérie quand même.
Bah, ils ont tous, de toute façon, des individualités très, très fortes, hein, dans les nouveaux réalistes. Il n'y en a pas un qui fait la même chose que l'autre. C'est plutôt un état d'esprit général qui veut repenser un peu les objets du réel. On pourrait dire que c'est vaguement une version française du pop art. On pourrait dire ça. Mais bon, après, ça ne m'a pas vraiment manqué dans l'exposition, dans le sens où je trouvais que l'exposition, elle est là pour nous montrer toutes les techniques, hein, de l'artiste qu'il a utilisé. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça très clair. Donc, ça ne m'a pas non plus vraiment manqué.
Et puis, ça le sortait un peu, du coup, de ce nouveau réalisme. Je sais
que... Oui, parce que, justement, il n'a pas fait que ça. Hein, et le nouveau réalisme, c'était très court. Donc,
Et puis, Bernard Blisten, quand il présentait l'exposition, il le rattache a posteriori avec carrément le minimalisme, un des précurseurs du minimalisme. Donc, après, c'est une relecture un peu, mais c'est intéressant de le sortir un peu de ça. C'est vrai qu'on a tendance à le réduire trop. Bon, bref, donc petite digression, mais c'est intéressant donc, sur ces compressions. Les empreintes humaines, Galadriel. Toi, c'est les pouces et les tétons qui t'intéressent.
Exactement. Alors, j'ai pensé à toi, Florence, hein, quand j'ai vu ce sein et ces tétons, parce que on sait que tu as une passion pour cette partie du corps. Non,
excusez-moi, cet énorme sein.
Bon, alors, justement, parlons-en.
Alors,
les empreintes humaines. Alors, dans cette partie, on a 5 pouces. Entre 40 et 185 cm de hauteur dans différents matériaux, aussi bien de la résine que du marbre, que du plâtre ou du bronze. Et nous avons 2 seins en résine de polyuréthane laquée, blanche. Il y en a un qui est présenté verticalement accroché au mur et fait 90 cm de hauteur. Et l'autre, il est sur le sol, à l'horizontale, 266 cm de longueur, histoire de garder toujours la référence, hein, du bas jusqu'en haut du sein. Voilà comment j'ai choisi les dimensions. Pour comprendre un petit peu. Alors, ces œuvres, elles sont réalisées, encore une fois, grâce à une autre technique. C'est l'agrandissement pantographique. Alors un pantographe, à l'origine, c'est un instrument de dessin qui est formé de plusieurs tiges articulées qui permet de faire des agrandissements ou des reproductions à l'identique de dessins. Il a été adapté pour le travail de la 3 dimensions au XVIIIe siècle. Bon, c'est un principe un peu compliqué à expliquer comme ça à l'oral, mais sur des vidéos sur Internet, on comprend très bien comment ça fonctionne. Ça permet de reporter les formes et les proportions d'une sculpture pour la reproduire à l'identique ou bien aussi de l'agrandir ou de la réduire. Et en fait, César découvre cette technique dans l'atelier d'un jeune artiste en 1963, quand il est invité à participer à une exposition qui s'appelait « La main de Rodin à Picasso ». Et alors, justement, César, il va encore une fois déconstruire le travail du sculpteur, le repenser complètement et évacuer cette main, la main du sculpteur, la main de l'artiste, ô combien sacrée, hein, cette main créatrice, et bien ici, elle est évacuée par ce procédé indirect. Et de sa main, il ne reste que son pouce, que le moulage de son pouce, finalement, qui fait agrandir dans un premier temps à 45 cm de hauteur, dans une résine synthétique, ce qui lui permet en plus d'essayer donc ce nouveau matériau ici. Et ensuite, à partir de 1966, il fait le moulage du sein d'une danseuse du Crazy Horse, et donc il va décliner de la même manière que son pouce, en différents matériaux, différentes dimensions. Et c'est vrai que ces deux fragments de corps isolés comme ça ont un caractère sexuel assez fort et assez assumé. Mais finalement...
Oui, le pouce, il y a une dimension
le pouce qui s'érige vers le ciel, etc. Et le sein, donc bon, effectivement, hein, on a ce caractère sexuel, mais... En les isolant de la sorte et en les travaillant déjà en série et dans des formes assez monumentales, on arrive quasiment à un monument presque abstrait.
où cette idée de départ, cette identité de départ est presque complètement oubliée, moi, je trouve.
Moi, ce que je trouve incroyable dans ces pouces, c'est vraiment oui, le détail que permet le pantographe, le détail des...
Ah, on a tous les détails des
veines, enfin non, c'est pas des veines,
De l'empreinte digitale.
Des nervures de la peau,
ouais,
du pouce.
L'empreinte digitale, mais même tous les petits plis autour de l'ongle, autour de... Enfin voilà, il y a vraiment un détail très fort et très précis à chaque fois. Et que ce soit dans des matériaux qui sont moulés, comme la résine, ou des matériaux taillés, comme le marbre, enfin...
Non, c'est incroyable. Alors, les expansions, Charlotte.
Alors, donc, ça, c'est
autre expérimentation, voilà, avec une autre technique, une mousse plus particulièrement.
Exactement. Alors ça, c'est une partie qui m'a fascinée, que j'ai trouvée très intéressante, notamment du point de vue des textures qu'on peut voir.
Puis on savait moins qu'il le faisait aussi. Enfin, tu vas raconter qu'il le faisait aussi avec des objets. Moi, je n'avais pas vu qu'il y avait de la mousse qui pouvait sortir d'objets.
Oui, alors ça, c'est très amusant.
Enrobé.
Donc, pour être plus précise, donc, il utilise un nouveau matériau qui s'appelle la mousse de polyuréthane, qui est un mélange auquel s'ajoute un élément accélérateur appelé le fréon. Et en fait, c'est ça qui fait augmenter le volume. Donc, vous pourrez d'ailleurs voir une petite vidéo en début de parcours d'exposition sur laquelle César procède en public. Car au début, il crée ses œuvres en public. Ça a un côté spectaculaire.
Il fait des happenings.
C'est cela.
Oui, parce qu'au départ, il y a le côté très éphémère finalement aussi, ces sculptures.
Exactement.
La mousse, il ne tient pas longtemps. Donc,
Oui, à peine figé. Donc, ça devenait quand même assez dur. Mais il s'est rendu compte que la structure des premières réalisations était un peu trop frêle. Donc, en 1969, il adopte une nouvelle technique qui est proche de celle utilisée pour les carrosseries automobiles. Donc là, les sculptures deviennent plus solides et la surface est poncée, recouverte de laine de verre, d'où cette texture brillante que vous pourrez voir.
Puis le principe, c'est toujours de faire couler cette matière liquide qui fait un gros tas, quoi. Enfin,
c'est cela.
Une grosse...
comme une purée,
flaque,
en fait.
Une grosse flaque. Une grosse flaque qui ressort.
Différents aspects.
C'est difficile de donner une image, mais...
Moi, je verrais plus de la purée.
C'est une grosse flaque. Mais...
Ah oui, tu voyais une purée. Mais bon, pourquoi pas, la flaque aussi. Hein. Mais c'est, une belle flaque.
C'est à la fois mouflasse et à la fois dur.
Mais ça dépend des œuvres. je ne sais pas si vous vous imaginez ces œuvres. Allez voir l'exposition, ce sera plus clair.
Parce que ça ne lui rend pas vraiment justice, là.
Mais il faut voir en vrai. Même le pouce et le sein, voilà.
Tout est à voir. Donc avec cette nouvelle technique de la fin des années 60, il y a un nouveau ponçage avec une superposition de couches. Et là, j'aime bien, je reprends une citation du catalogue de l'exposition qui dit donc une superposition de couches de laque aux couleurs nacrées et de vernis translucides. Et c'est exactement ça. Voilà, on a cette flaque, cette purée translucide et brillante, nacrée, c'est tout à fait cela. Donc certaines expansions se déversent sur le sol, d'autres sont sculptées plus en hauteur... dans des couleurs assez vives. Il y en a une qui est au fond de la salle, c'est bleu turquoise, assez impressionnante. Et pour les plus petites expansions aussi, il utilise donc des objets du quotidien, comme une bouilloire, une casserole. Et c'est amusant de voir toute cette mousse qui sort.
Elle vomit de la mousse.
Un simple objet, qui déborde. C'est vraiment très plaisant à voir.
Il en a fait dans une boîte de conserve qu'on pouvait acheter et faire à la maison. Mais j'aurais tellement adoré faire ça. Ouvrir la boîte et faire sortir sa mousse.
L'ancêtre du do-it-yourself.
Mais en plus, exactement, c'est ça, le do-it-yourself.
Exactement.
Très bien. Et donc, alors peut-être les œuvres qu'on connaît le moins, c'est les enveloppages d'Galadriel.
Oui, alors c'est une série que je ne connaissais pas du tout. Il expérimente encore avec des nouveaux matériaux. Ici, c'est les matières plastiques et notamment le plexiglas, auquel il veut appliquer la même technique que les compressions. Alors pour ce faire, il utilise des feuilles de plexiglas, il les met dans une étuve pour les chauffer et les assouplir. Et ensuite, il les place dans une matrice pour leur donner leur forme. Donc il les plie, il les tord, il les déforme. Et quand elles refroidissent, eh bien le plastique se trouve figé finalement dans cette forme. Et il va utiliser cette technique en insérant des objets à l'intérieur. On a par exemple une machine à écrire, un moulin à café, un téléphone, des outils qui sont comme ça pris dans ces feuilles de plexiglas. Moi, j'avais l'impression de voir un peu des bulles sorties d'un cabinet de curiosité, de voir des objets un peu immortalisés, figés comme ça dans leur époque. Et si on connaît moins ces œuvres, je pense que c'est justement parce que César les voyait plutôt comme des expérimentations. Mais
je trouve que c'est très, très intéressant de les avoir au sein de cette exposition qui nous montre tout ce travail, hein, ce renouvellement finalement du travail sculptural que fait César. Et en même temps, ça nous montre, ça enrichit encore le regard qu'il avait par rapport aux objets et à la réalité. Et donc, à chaque moment de son travail, que ce soit les compressions, que ce soit les empreintes humaines, etc., il isole des formes et il les transforme et elles se retrouvent figées dans des nouvelles positions où leur fonction de départ et de base est complètement perdue et deviennent un peu des signes comme ça, avec un caractère un peu intemporel. Je trouvais ça très intéressant.
Et puis, il n'arrête pas de recycler ces thèmes, de recycler les matières qu'il a employé avant. Donc moi, pour finir, je vais parler donc des fontes de fer. Et là, c'est étonnant puisque donc à la fin des années 70, il revient, il fait des plâtres, il fait aussi, il revient à ses fers initiaux. Et en fait, il abandonne la technique de la soudure à l'arc. Il abandonne le fer pour le bronze et il remodèle les œuvres en les agrandissant. Donc ensuite, comme toujours, il va retravailler donc les thèmes qui lui sont chers, et cette fois en bronze soudé. Donc il fait toute une série de poules patineuses, et il expérimente les fontes de fer sur ses œuvres les plus radicales, donc, dont on vient de parler, les compressions, les empreintes et les expansions. Dans les années 90, il fait couler en fonte de fer les empreintes d'un sein et d'un pouce, ainsi qu'une série d'expansions réalisées à partir de moulages des expansions brutes. Donc il a vraiment une capacité inépuisable à recycler ses œuvres. C'est assez, ça va avec ce que tu dis, Gadriel, sur le fait qu'il fige un peu les objets. Il fige tout en réexpérimentant sans arrêt les techniques.
C'est ça. Et je pense que justement l'exposition qui est toute ouverte comme ça nous permet vraiment de comprendre aussi cet aller-retour, ne serait-ce qu'en jetant un seul coup d'œil à l'autre bout de la pièce et en retrouvant les mêmes modèles, les mêmes sujets.
Et puis, pareil, donc l'exposition finit par de nouveau des compressions. Donc, à partir de 1984, à la demande de Jean Todt, qui est le directeur de Peugeot Talbot Sport, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, Jean Todt souhaite donner aux épaves des voitures de rallye, donc 205 Turbo 16 Peugeot, un statut d'œuvre d'art. Donc, à sa demande, César revient au métal et reprend, pour la série intitulée Championne, le principe de la ligne plate, inauguré en 1970 par la Dauphine. Donc en fait, c'est des voitures qu'il aplatit comme des galettes. Et écrasées en galettes, elles se présentent de manière verticale sur pied ou à même le sol. Donc en 1995, Catherine Millet, qui souhaite qu'il représente la France à la Biennale de Venise, bataille pour le faire accepter. Et donc, c'est lui qui est choisi pour représenter la France. Et c'est là qu'il décide d'exposer Scandale. Donc il expose pas moins de 520 compressions, dont 6 Citroën ZX noires complètement plates.
Ça devait être assez impressionnant. Hein. J'ai un peu du mal à imaginer.
Et ça devait être... c'était un peu scandaleux, mais en même temps, ça devait être assez incroyable. Et c'était un peu le rêve de sa vie d'en présenter autant. Et 3 ans plus tard, ultime pied de nez donc, d'un artiste devenu un personnage public, hein, comme on l'a vu. Donc là, il avait toujours ses cigares, sa moustache et ses bolides. Il présente sa dernière création, la suite milanaise. Donc on a un bout de la suite milanaise qui est donc à la fin de l'exposition. Donc la suite complète est constituée de 15 blocs de Fiat toutes neuves, fraîchement sortis de l'usine de Turin. Et en fait, au sein de la chambre de peinture du constructeur, il vaporise dessus des couleurs, les gammes des modèles qui sont devenues le titre de chaque Fiat. Donc c'est quand même des voitures produites toutes neuves, produites spécialement pour qu'ils les écrasent. Voilà, donc finalement, bilan sur cette exposition. Si vous deviez dire un dernier mot,
faut y aller. Allez-y.
Ce sera pareil pour moi, allez-y.
Très bien. Eh bien, la rétrospective de César est à voir jusqu'au 26 mars 2018 au Centre Pompidou. Et qu'on aime ou qu'on dédaigne un peu cet artiste plasticien étonnant, moi je pense que ça vaut vraiment le coup de pénétrer dans son œuvre, dans son ensemble, de comprendre sa démarche, ses allers-retours dans ses thèmes de prédilection et de voir ce qui se cache derrière le personnage.
Museum Side.
Votre émission de critique d'exposition.
Et maintenant, Charlotte, tu nous parles de l'exposition consacrée à Patrice Chéreau, mettre en scène l'opéra, à retrouver à l'Opéra Garnier jusqu'au 3 mars 2018.
Quand le cinéaste s'aventure du côté de l'opéra. Vous connaissez Patrice Chéreau, réalisateur, Patrice Chéreau, homme de théâtre, comédien, mais saviez-vous qu'il a aussi révolutionné l'opéra en lui donnant une dimension théâtrale ?
Comprenez bien, il a osé faire travailler des chanteurs comme il l'aurait fait avec des acteurs. Au total, Patrice Chéreau a mis en scène 11 opéras. Parmi eux, des Allemands, beaucoup d'Allemands. Mozart avec Lucio Silva, Don Giovanni et Così fan tutte, Strauss avec Elektra, Berg avec Lulu et Wozzeck, mais surtout Wagner avec Tristan und Isolde et Le Ring. Et c'est justement sur cette dernière œuvre que je voudrais m'attarder. Pour faire simple, et si vous n'en avez jamais entendu parler, Le Ring est un cycle de 4 opéras. L'Or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux. 15 heures de spectacle, plus de 30 personnages, 125 instrumentistes. Imaginez un peu le travail. Quant à l'histoire, inspirée des légendes germaniques, elle tourne autour du vol de l'or du Rhin, symbole de richesse et de puissance que chacun va chercher à s'approprier. En 1976, Wolfgang Wagner, qui est donc le petit-fils du maestro, fait appel à Chéreau pour une nouvelle version du Ring, 100 ans après sa création à Bayreuth. Le metteur en scène n'a alors que 31 ans et seulement 2 opéras derrière lui. Le défi n'est pas mince, mais pour lui, tout chez Wagner se prête au théâtre, le texte et la musique. Alors oui, Chéreau retrousse ses manches et aux côtés du chef d'orchestre Pierre Boulez et du scénographe Richard Peduzzi, il s'attaque à cette tâche colossale. Immédiatement, il impose son style. Adieu le mythe et bonjour l'histoire et la politique. Il dépouille l'intrigue et la transpose dans un 19e siècle industriel où le capitalisme fait rage, où les filles du Rhin sont devenues des prostituées et où le dieu Wotan porte un frac. Et oui, une petite révolution de la scène lyrique. Lors de la première, le couperet tombe, scandale. Les plus conservateurs lui reprochent une lecture marxiste et trop réaliste de Wagner. Chéreau reçoit même une menace de mort. Pourtant, 4 ans plus tard, la même mise en scène lui vaut un succès historique. 1h30 d'applaudissements et sans rappel. Au sein de l'exposition, vous pourrez voir ses notes, les photos des répétitions, les plannings de travail, les critiques et surtout quelques extraits du spectacle sur grand écran. Des documents d'ailleurs disponibles pour chacun des 11 opéras mis en scène par Chéreau. Mettre en scène un opéra n'est pas chose aisée. Chéreau reprochait un temps de répétition toujours trop court, mais ce travail ne lui procurait pas moins un immense plaisir. À l'heure de sa mort en 2013, le cinéaste avait encore 2 projets en préparation. Et oui, il n'allait pas s'arrêter comme ça. C'était Moïse et Aaron de Schoenberg pour 2015 et Boris Godounov de Moussorgsky, et que malheureusement nous ne pourrons jamais voir.
Museum Site, c'est fini pour ce soir. Merci à notre invitée Jessica Castex, commissaire de l'exposition de Mohamed Bourouissa au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. L'exposition qui s'appelle donc Urban Riders. Merci à vous les filles Marie-Hélène, Charlotte et Galadriel et à notre réalisateur Louis-Julien. On vous retrouve le dimanche 4 mars à 20h et on ira visiter l'exposition de Shell AX au centre Pompidou avec son commissaire Michel Gauthier. En deuxième partie, nous parlerons photos pour changer un peu avec la rétrospective de David Goldblatt au centre Pompidou qui ouvrira ses portes le 21 février pour se terminer le 7 mai. La soirée continue sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM. Restez avec nous.